en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Le quatrième fauteuil de l'Académie française est actuellement occupé par le philosophe Jean-Luc Marion, qui a été reçu sous la coupole le 21 janvier 2010. Il est le 24e titulaire de ce fauteuil. Et quels furent ses prédécesseurs ? Leurs noms vont vous être dévoilés par Mireille Pastoureau, qui poursuit ici cette série de l'histoire des fauteuils de l'Académie française. Bonjour Mireille Pastoureau.
Bonjour Hélène.
Vous êtes directeur et conservateur de la bibliothèque de l'Institut, je le rappelle, bibliothèque qui réunit les bibliothèques des 5 académies qui composent l'Institut de France. Alors je vous propose de passer bien sûr en revue les titulaires, mais nous allons nous attarder sur les plus célèbres et peut-être passer un peu rapidement sur les moins connus, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur ce fauteuil qu'on a oublié, il faut bien le dire. Alors quel fut le tout premier occupant de ce fauteuil au moment de la création de l'Académie ?
Alors le tout premier occupant, c'est Monsieur Marion lui-même qui serait plus qualifié pour en parler, c'est Jean Desmarais de Saint-Sorlin, qui était poète, dramaturge et romancier, et qui a la particularité d'avoir eu deux vies successives, une première vie de libertin et une deuxième vie de dévot à partir de 1645. À partir de 1645, il ne produisit plus que des œuvres à sujet religieux.
Il était académicien déjà, alors lui, à ce moment-là.
Il a fait partie des premiers membres en 1634. Il était protégé du cardinal de Richelieu. Et Richelieu l'a choisi pour en faire partie dès la création, faire partie de l'Académie. Et Desmarais de Saint-Sorlin a été le premier chancelier de l'Académie, fonction qui existe toujours et que les académiciens assument successivement, à tour de rôle maintenant.
Il faut dire qu'il a écrit avec Richelieu, vous me l'apprenez, une comédie, j'imaginais mal le cardinal rédigeant une comédie, intitulée « Les visionnaires ». Donc, c'est une surprise. Le deuxième occupant, Jean-Jacques de Mesmes, dit le président de Mesmes, M-E-S-M-E-S. Il a été élu, lui, en 1676.
Voilà, c'était un parlementaire. Il appartenait à une vieille famille de diplomates et de protecteurs des lettres. Et alors, il a eu cette particularité de faire reconstruire une église dans les Ardennes. Il avait un fief de famille dans les Ardennes. Il était comte d'Avaux, A-V-A-U-X. Et le fief, la partie, portait le nom d'Asfeld, A-S-F-E-L-D. C'est dans l'Aisne et c'est un lieu qui existe toujours, où il a fait reconstruire une église dans le style italien, parce qu'il avait voyagé en Italie, il avait conçu une grande admiration pour l'architecture baroque et il a fait donner à cette église la forme d'un instrument de musique. C'est une église en forme de viol de gambe.
Nous irons la visiter.
Qui existe toujours.
Nous irons un jour visiter l'église donc de Jean-Jacques de Mesmes. Alors voilà, élu à l'Académie française. Le troisième, c'est un abbé.
Voilà, qui comme beaucoup d'abbés au XVIIIe siècle était précepteur des filles d'un prince, du duc d'Orléans, du frère de Louis XIV. Et il a été élu à l'Académie française un peu par protection, disons-le, parce qu'il a été préféré à Fontenelle alors qu'il n'avait pratiquement rien écrit.
Il est resté moins célèbre que Fontenelle et cet abbé s'appelait Jean Testu de Mauroy. Le quatrième, c'est un Louvois. Est-ce que c'est l'un des fils du grand Louvois?
Exactement, c'est le quatrième fils du grand ministre de Louis XIV, qui tout jeune a été destiné à l'église. Il était donc abbé. Et quand il eut 9 ans, on l'a nommé maître de la librairie, garde de la bibliothèque du roi, l'actuelle bibliothèque nationale, et intendant du cabinet des médailles.
À 9 ans.
À 9 ans.
Merveilleux.
Et on ne savait pas ce qu'il donnerait. Alors on lui a donné un mentor qui était son oncle paternel, l'archevêque de Reims. Mais l'abbé de Louvois a fait des très bonnes études, il s'est intéressé beaucoup à tout cela, il est devenu docteur en Sorbonne à 25 ans et il a décidé qu'il n'avait plus besoin de son oncle et il a gouverné lui-même la bibliothèque du roi et fort bien.
Donc voilà, un jeune abbé qui a finalement fait une jolie carrière puisqu'il a fini à l'Académie française. Le cinquième, alors il est évidemment plus connu, Jean-Baptiste Massillon, élu en 1718. On aborde le 18e siècle.
Exactement, voilà. Et donc il était né à Hyères, dans le sud de la France. Il avait été éduqué chez les pères de l'oratoire et il est devenu lui-même oratorien. Il a commencé à faire de l'enseignement, mais on s'est aperçu qu'il avait un don extraordinaire pour la prédication. Depuis qu'il était enfant, il reprenait les sermons qu'il entendait, il les reproduisait devant ses camarades de classe et il avait beaucoup de succès. Donc on lui a demandé de prononcer plusieurs oraisons funèbres, d'abord dans sa région, puis à Paris et enfin il a prêché le carême devant Bourdaloue qui était le grand prédicateur de l'époque et Bourdaloue a déclaré qu'il avait trouvé son maître. Donc, dès lors, Massillon a prêché l'Avent, le Carême, prononcé des oraisons funèbres à Versailles, des princes du sang, et il a prêché devant le dauphin, et il a eu un très grand succès. Je crois qu'il avait effectivement un ton nouveau. Il s'est distingué de ses prédécesseurs parce que il ne faisait pas de références érudites dans ses sermons, mais c'était quelqu'un d'extrêmement sensible, qui savait toucher les personnes. Et Louis XIV lui a dit un jour « Mon père, j'ai entendu de grands orateurs dans ma chapelle, j'en ai été fort content. Pour vous, toutes les fois que je vous ai entendu, j'ai été très mécontent de moi-même. »
Comme quoi il avait été touché.
Il avait été touché, exactement.
Alors après Massillon, le sixième occupant de ce fauteuil, c'est Mancini Mazarini, qui est un petit-neveu de Mazarin, sur lequel on va peut-être passer rapidement.
Il était grand d'Espagne par sa mère et surtout, il avait un gros atout, il possédait la deuxième fortune de France.
Ah, voilà, c'est voilà. Une bonne
Il raison. A fait une carrière militaire, mais ensuite, il s'est consacré un petit peu aux lettres jusqu'à la Révolution, parce qu'il a vécu la Révolution et l'Académie a été supprimée en 1793.
Il a échappé de peu à la guillotine, si
Exactement,
je comprends bien.
Voilà.
Son successeur, c'était Gabriel-Marie Legouvet, qui alors lui, finalement, entre dans ses classes de l'Institut, puisque effectivement, nous sommes sous la période révolutionnaire.
Tout à fait. C'était un auteur dramatique et il a eu un fils, Ernest Legouvet, qui fut également membre de l'Académie française dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Lui succède le huitième occupant Alexandre Duval, qui était un comédien, lui, poète et auteur dramatique.
Tout à fait, qui avait un frère qui s'appelait Amaury Duval, qui était diplomate, archéologue et membre de l'Académie des inscriptions, et lui-même père du peintre Amaury Duval du XIXe siècle. C'est toute une famille.
Toute une famille. Alors, c'est Pierre-Simon Ballanche qui lui succède. Donc, en 1842, là, nous revenons à la philosophie. C'est un philosophe, mais c'est un philosophe amoureux, si je puis dire.
C'est un philosophe amoureux parce qu'il est connu pour sa grande liaison platonique avec Madame Récamier, avec Juliette Récamier. Il l'a rencontrée par l'intermédiaire de Chateaubriand. Et dès lors, lui qui était lyonnais au départ, fils d'imprimeur, né dans un milieu déjà catholique et royaliste, ce qui fut toujours ses idées. Il est venu à Paris. Il faisait très souvent le voyage de l'abbaye au bois où était Madame Récamier avec Chateaubriand. Et donc, on a des correspondances et il lui avouait un culte de toute sa vie. Et il est enterré dans le tombeau familial des Récamiers au cimetière de Montmartre.
Il est suivi de Jean Watou, qui a été élu lui aussi en 1848. C'est un historien.
C'est un historien, alors totalement lié au sort de la famille d'Orléans. Et il est totalement lié à cette famille au point que il en est mort en quelque sorte, parce que peu après son élection à l'Académie, il a suivi Louis-Philippe en exil en Angleterre, dans le château de Clermont, dans le Surrey, et il est décédé peu après de saturnisme en raison de la vétusté de la tuyauterie en plomb du château.
Hélas, pour Jean Watou, il est suivi par Alexis de Guignard, le comte de Saint-Priest.
Oui, dit, c'est voilà. Assez intéressant parce que son grand-père, qui était un ministre de Louis XVI, avait émigré pendant la Révolution en Russie. Et c'est la raison pour laquelle Alexis de Guignard est né là. Son père était gouverneur d'Odessa et sa mère était une princesse russe, Sophie Galitzine.
Et ce Alexis de Guignard est suivi de Pierre-Antoine Berryer. Alors Pierre-Antoine Berryer, c'est lui qui a défendu le prince Napoléon, je crois.
Exactement. C'est une grande figure du parti royaliste légitimiste, un très grand avocat, et il avait défendu Chateaubriand, et il a fait partie du groupe d'avocats qui ont défendu le prince Louis-Napoléon Bonaparte dans sa tentative de coup d'État pour débarquer à Boulogne depuis l'Angleterre en 1840. Ça n'a pas donné de très bons résultats puisque le prince Bonaparte a été emprisonné, comme on sait, au fort de Ham, a été condamné par la Chambre des Pairs. Mais ensuite, Berryer a consacré toute sa vie au parti légitimiste, royaliste. Il a rendu visite à Charles X en exil à Prague. Et il s'est retiré de la vie publique lorsque Napoléon III est venu au pouvoir. Même dès le coup d'État de 1851, il s'est retiré. Et il est un petit peu revenu comme député lors de la deuxième partie du Second Empire, sous l'Empire libéral.
Il est donc suivi par le 13e titulaire de ce fauteuil, François-Joseph de Champagny, élu en 1869. C'est un ministre lui aussi ?
Exactement, et puis également journaliste. Il a collaboré à la Revue des Deux Mondes. Il était royaliste et clérical, soutenu par Guizot et Dupanloup. Son élection a sans doute fait l'objet un peu de tractations entre les diverses chapelles de l'Académie, comme à l'époque ça se faisait quelquefois. Voilà.
Et c'est Charles de Mazade qui lui succède en 1882.
Oui. C'est très curieux, Charles de Mazade, parce qu'il est d'une famille du Languedoc. Ils ne sont pas si nombreux. Il a fait ses études au collège de Bazas, qui est tout de même une petite ville. Et il est inhumé à Flamarens, dans le Gers, ce qui n'est pas très fréquent pour les membres de l'Académie
française. Ben voilà, il y en a aussi. Mais le
C'était un homme de lettres, un poète. Voilà, un poète. Un gros travailleur, un historien aussi.
En tous les cas, son successeur, donc le 15e titulaire, lui, est un petit peu plus connu. C'est José María de Heredia, élu en 1894.
Tout à fait. Et nous avons la chance, à la bibliothèque de l'Institut, de posséder un fonds Heredia qui a été donné par l'une de ses filles, Marie de Régnier, qui a épousé Henri de Régnier. Et donc, nous avons des documents qui retracent un petit peu l'histoire de la famille de Heredia, qui était une famille de Cuba. Vous savez que Heredia est né dans la plantation de café familial près de Santiago de Cuba. Il y a passé quelques années. Il est revenu ensuite pendant un an à La Havane en 1859. Et nous avons notamment des documents qui attestent de la noblesse de la maison de Heredia, certifiée conforme par le consul de France à Cuba.
Très bien, donc à relire José María de Heredia si on a envie, en sachant que maintenant il est donc le 15e occupant de ce fauteuil numéro 4 et il est suivi par un non moins célèbre essayiste, romancier et homme politique, Maurice Barrès.
Maurice Barrès, oui, qui a vraiment changé la littérature en recueillant le succès auprès de la jeunesse de son temps, en vantant l'exaltation, l'analyse des sentiments. Il venait après le naturalisme, le positivisme, il a proposé quelque chose de nouveau. Et en même temps que ce succès littéraire, il a eu sa vie politique que l'on sait, en étant notamment anti-Dreyfusard, publiant son journal, exaltant la patrie, enfin, comme l'on sait.
Élu en 1906, que possédez-vous à la bibliothèque de lui de rare?
Alors, on a quelque chose de très curieux. On a tout l'ensemble de sa correspondance avec la comtesse Anna de Noailles, à laquelle il a voué une grande passion. On ne sait pas si elle est restée platonique ou pas. En tout cas, c'est une correspondance amoureuse. Et c'est vrai que j'ai trouvé des lettres vraiment très curieuses, très personnelles, qui sont quelquefois sur le papier en tête de la Chambre des députés. C'est assez amusant. Et c'est une correspondance qui avait été donnée en 1940 et qui n'a été ouverte à la consultation qu'en 1991. Donc, on sait que Maurice Barrès est mort en 1923, on voit les précautions qui ont été prises pour la protection de cette correspondance.
Bien sûr. Après Maurice Barrès, c'est Louis Bertrand, qui est un romancier, essayiste, historien.
Voilà, qui est lorrain comme Barrès, c'est un petit peu le fil conducteur, c'est son point commun. L'Académie a laissé 3 ans de vacances du fauteuil avant d'élire un successeur à Barrès, tellement le personnage était important. Louis Bertrand a fait une grande partie de sa carrière comme professeur puis comme écrivain en Algérie, en Afrique du Nord. Il a fait un voyage en Orient également.
Il est suivi par Charles dit Jean Tarot. Alors ceux-là, les deux frères Tarot, ils avaient changé leur prénom.
Ils avaient changé.
Mais ils sont quand même restés connus.
Ils sont restés très connus. Ce qui est très curieux, c'est que, comme vous le savez, ils écrivaient leurs livres ensemble. L'un, le cadet, faisait le premier jet, puis l'aîné faisait toujours la version définitive. Les livres étaient signés ensemble. Ils écrivaient d'une même plume, en quelque sorte. Et l'Académie a été très ennuyée parce qu'elle n'a pu les élire en même temps.
Oui, les deux, il n'y a pas de fauteuil pour jumeaux ni pour frères.
Exactement. Donc, le frère aîné a été élu le premier, avant la guerre.
Voilà. Et l'autre a été élu aussi.
Voilà, mais il a fallu attendre la fin de la guerre, puisque pendant l'occupation, aucune élection n'a eu lieu. Donc, Jean Tarot a fait partie de la fournée de 1946, qui a vu 5 académiciens élus en même temps. La première élection groupée, qui a comblé les nombreuses places laissées vacantes par l'occupation.
Et vous avez aussi des lettres autographes de Charles dit Jean Tarot.
Voilà, exactement, qui ont été données tout récemment à la bibliothèque par le fils de Louis Gillet, par Monsieur Jérôme Gillet, qui vient de décéder cette année. Il a donné ses lettres en début d'année, il est décédé quelques mois plus tard. Et Louis Gillet était membre de l'Académie française, a été conservateur de l'abbaye de Chaly. Et Louis Gillet était un grand ami des frères Tarot. Et donc Jérôme Gillet, qui nous a donné ses lettres, fils de Louis Gillet, était filleul de Jérôme Tarot, d'où son prénom. Donc nous avons eu ce don tout à fait récent, qui est très intéressant, parce que on voit les relations justement avec Barrès, de Jérôme qui était son secrétaire et Jean en remplacement, etc. Donc nous sommes très heureux d'avoir reçu ce don inédit.
Mireille Passoureau, nous en sommes au 19e titulaire. Je vous propose de marquer une courte pause parce que maintenant les noms que nous allons aborder sont plus connus et vous aurez certainement beaucoup de choses à nous raconter.
Un jour dans l'histoire revient sur les raisons de la condamnation par l'église de Galilée copernicien en compagnie d'Aimé Richard. Pour tout comprendre sur le contexte politique, scientifique et historique, téléchargez dès maintenant cette émission sur Canal Académie.
Nous revenons dans notre studio en compagnie de Mireille Passoureau, directeur et conservateur de la bibliothèque de l'Institut, pour évoquer maintenant le 19e titulaire du 4e fauteuil de l'Académie française, qui est un militaire évidemment très connu, le maréchal Juin.
Oui, tout à fait. Je l'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette exposition. Et c'est vraiment une personnalité très remarquable qui se plaisait à rappeler qu'il était fils et petit-fils de gendarmes. Il était né à Beaune, en Algérie, et il était sorti major de Saint-Cyr en 1912, dans la même promotion que le général de Gaulle.
Alphonse Juin, de son prénom, alors évidemment très célèbre pour ses combats sur la Marne, pour avoir été d'ailleurs aussi blessé, je crois.
Tout à fait, il avait perdu l'usage de son bras droit, il avait été grièvement blessé en 1915.
Et puis, évidemment, toute sa carrière, il s'est rallié aux Américains en 1942, il a pris la tête du contingent français. Bon, c'est une grande carrière militaire. Il a été élu en 1952 et je pense qu'il est mort en 67, donc il a tout de même resté un certain temps sur ce fauteuil.
Oui. Il a été élu peu après avoir été élevé à la dignité de maréchal de France. Vous savez qu'il fut le seul général de la Seconde Guerre mondiale à avoir été élevé à la dignité de maréchal de son vivant. Et comme le veut la tradition, il fut élu la même année à l'Académie française, à l'unanimité des votants.
La tradition veut qu'un maréchal de France
pendant
soit
académicien. Pendant tout le XXe siècle, les maréchaux français furent en effet élus à l'Académie, à l'unanimité des votants, sans avoir besoin de faire campagne, d'où l'expression « une élection de maréchal » qui est restée dans le langage courant pour désigner une élection unanime ou presque.
Alors, je ne savais pas qu'elle venait de là, en effet. Le maréchal Juin est suivi d'un philosophe ou d'un poète, Pierre-Emmanuel. On l'est plutôt poète, en fait, mais...
Il a beaucoup de facettes. Il a été un homme de radio. Il a été le premier président de l'Institut national de l'audiovisuel. Il a fondé la Vidéothèque de Paris. Il a initié la Maison de la poésie. Il a été critique littéraire, défenseur des droits de l'homme, donc poète, on l'a dit, mais aussi prosateur, journaliste. Donc c'est un personnage énigmatique qui mérite vraiment d'être connu. Quand on connaît son histoire personnelle, on est forcément touché parce que Pierre-Emmanuel, il l'a dit lui-même, a été privé de son enfance. Ses parents étaient très pauvres, ils ont émigré aux États-Unis Il dit qu'il était fils d'émigrés comme sont les Portugais ou les Marocains, a-t-il dit, à son époque, que ses parents avaient été domestiques en Amérique. Et donc, ses parents l'ont confié à sa famille en Béarn, et où un oncle lui disait « Personne dans la famille n'est sorti de la médiocrité et ce n'est pas toi qui commenceras ».
Eh bien, il s'est trompé.
Voilà, tout à fait. Il a eu de graves accidents de santé. Au moment du concours de l'école polytechnique, une attaque de tuberculose lui a fait perdre tous ses moyens. Il a dû être soigné, donc il a renoncé aux mathématiques. Il s'est inscrit en philosophie. Donc, il raconte très bien tout ça parce que pour compenser, naturellement, il a manifesté une certaine ambition qui parfois a pu lui être reprochée. Mais il dit qu'il avait un défi à relever à l'âge adulte. Il avait à relever le défi fait à l'enfant.
Effectivement, il a rencontré tous les grands noms de l'académie de cette époque, Carcopino, enfin bon,
tout à fait. Et il a fait de la résistance également. Il était réfugié dans la Drôme pendant l'occupation. Il a écrit des poèmes de guerre qui datent de cette époque.
C'est un poète qu'on ne lit plus guère en ce moment, justement.
Une biographie vient de paraître. Je pense qu'il sera redécouvert probablement dans les années qui viennent.
Alors, c'est le 21e titulaire Jean Amburger qui lui succède, qui lui est un médecin. Vous voyez que les fonctions sont diverses à l'Académie française et qui était déjà membre de l'Académie des sciences. Jean Amburger est élu à l'Académie française en 1985.
Tout à fait.
Ce n'est pas si ancien.
Exactement. Et il faut noter qu'en ce moment même, sa fille, Madame Franca Berger, donne les papiers de son père, les archives de Jean Amburger, est en train de les donner à l'Académie des sciences et elle fait don à notre bibliothèque de deux très beaux ouvrages anciens sur le Rhin, d'histoire de la médecine sur le Rhin, puisque le nom de Jean Amburger est associé naturellement à la néphrologie, qui est une discipline qu'il a nommée lui-même, le nom n'existait pas, c'est-à-dire l'étude du Rhin, à la fois normale et des maladies du Rhin. Il est l'auteur de la première transplantation rénale en France en 1952, opération qui a eu un retentissement exceptionnel. Et il est aussi le créateur du concept de réanimation médicale en 1953. Donc c'est un médecin tout à fait éminent qui était également membre du réseau de résistance du Musée de l'Homme, membre des conseils de l'ordre de la Légion d'honneur, des arts et lettres. Et qui a écrit une série d'essais et d'œuvres littéraires de réflexion sur la condition humaine, sur les causes de la fragilité du monde actuel, sur la recherche d'un équilibre entre les impératifs biologiques et les exigences spirituelles de l'homme. Donc c'est un penseur profond, en même temps qu'un grand médecin.
Un médecin et un humaniste, certainement.
Exactement.
Il est suivi par le cardinal de Courtrai, Albert de Courtrai, qui a été élu en 1993, qui n'est pas resté longtemps à l'Académie puisqu'il est décédé en 1994. Certains se souviennent certainement du cardinal de Courtrai. Et puis, c'est un autre cardinal qui va être le 23e titulaire de ce fauteuil,
voilà.
Jean-Marie Lustiger,
voilà.
Bien sûr.
Oui, qui est le prédécesseur direct de Jean-Luc Marion, qui s'inscrit lui-même dans cette tradition catholique, naturellement, puisqu'il est un philosophe catholique, Jean-Luc Marion. Voilà, et donc le cardinal Lustiger a raconté lui-même son histoire tout à fait étonnante, puisqu'il est né sous le nom de Aaron Lustiger dans une famille juive ashkénaze originaire de Pologne. Et à 14 ans, alors que son père s'était réfugié à Orléans avec ses enfants, il s'est converti au catholicisme et il a adopté les nouveaux prénoms de Jean et Marie, pendant que sa mère, qui était restée à Paris, a été raflée et déportée à Auschwitz, où elle est décédée.
Effectivement, et le cardinal Lustiger a terminé effectivement cardinal archevêque de Paris. Donc, on le sait, il a été créé cardinal par le pape Jean-Paul II. Et il était docteur honoris causa de très nombreuses universités, je crois. C'est aussi un grand penseur. Et c'est Jean-Luc Marion, donc l'actuel titulaire de ce 4e fauteuil de l'Académie, qui a fait son éloge, comme le veut la tradition. Donc c'était effectivement un moment à la fois très émouvant et très intéressant sur le plan de la pensée contemporaine et de l'histoire de l'Église de France aussi. Merci Mireille Pastoureau. Je rappelle que cette histoire des fauteuils, c'est la 9e histoire de notre série, que nous en avons Une sur le fauteuil actuellement occupé par Mgr d'Agens, par Jean-Louis d'Abadie, par Max Gallo, par Dominique Fernandez, par Philippe Vaussan, par René Girard et par Jean Clerc. Vous voyez que nous étoffons cette série au fur et à mesure. Merci de tout ce travail, merci de venir le partager avec nous et à bientôt peut-être pour une autre histoire de fauteuil.
Avec plaisir, à bientôt.